10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver, de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali ?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Philippe, ça va très bien. Alhamdulillah, vraiment, franchement, j'ai passé des moments merveilleux avec justement les personnes qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont venues m'accompagner parce qu'ils ont dit, il faut quand même qu'on vienne un jour voir comment ça se passe sur le plateau. J'aurais dit marhaba bikoum, ils sont venus, voilà. Nous avons Salim, Hicham, bon, Cheikh Youssouf qu'on connaît tous. Il était lui aussi avec moi, eh ben, Inch'Allah.
C'est clair, on a le plateau le plus lourd de tous les médias français, là.
Tout à fait.
On a même Rugbimam qui est là. Comment ça va?
Ça va très bien, Philippe. La prochaine délégation, ce sera Cheikh Moustapha, Al-Sat Moustapha Sherif, et puis toi. Et Foudel, allez, on y va.
Et Maître Serran.
Bien sûr, pourquoi pas compléter la prochaine.
Quelle équipe.
Et quelle équipe, voilà.
Bien, nous profitons de la présence en France de Mustapha Chérif qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, je rappelle que tu es un intellectuel musulman, expert du dialogue des cultures et des religions de renommée internationale. Et vous êtes là pour nous parler de votre livre le plus important, ça s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau ». Aux éditions Unicité, ça vous va bien hein, comme édition Unicité. Et vous dites que c'est le livre le plus important que vous ayez jamais écrit, Mustapha Chérif.
Oui, depuis 40 ans, c'est un peu la synthèse de tout le cheminement d'interrogation et de réflexion sur les sources fondamentales du troisième rameau monothéiste. L'islam est méconnu, alors qu'il représente près de 2 milliards de personnes et qu'il existe depuis 15 siècles. Donc il y a un problème de méconnaissance, d'ignorance qu'il faut mettre en œuvre pour corriger cela et avoir de la pédagogie, parce que cette méconnaissance, cette ignorance pose problème. Alors il faut revenir à la source, il y a trop d'interrogations, parfois légitimes, mais parfois des préjugés. Il y a aussi des interprétations qui ne correspondent pas à la ligne, celle de l'Ouassatiya, du juste milieu. Donc, c'est un livre qui se veut un peu la synthèse de toute la problématique dans laquelle se débat l'humanité aujourd'hui. C'est comment apprendre à vivre.
Ensemble. Et puis, dans votre livre, vous revenez sur des questions controversées, notamment du droit pénal islamique, les questions sur les femmes aussi, sur l'égalité homme-femme. Donc, et vous parliez de pédagogie, cette pédagogie de l'interprétation. Pour tout le monde, quel sens vous donnez au mot interpréter le Coran ?
C'est ne pas imposer sa propre lecture d'abord. Laisser le texte dire ce qu'il a à dire d'abord. Essayer de se mettre à l'écoute, d'être attentif, parce que l'immense majorité des versets, des chapitres et des versets du Coran sont clairs. Il moubine, dit le Coran lui-même. Il est évident, il est clair. Mais il laisse aussi des cases ouvertes pour responsabiliser l'être humain en fonction de l'évolution, du contexte, du lieu. Il se veut valable en tout temps et en tout lieu. Donc c'est ça l'ijtihad, c'est l'interprétation, le ta'wil, le tafsir, l'istinbat, ça veut dire faire sortir du texte ce qu'il a en lui. Il y a évidemment des aspects apparents, des aspects cachés, des aspects simples, mais des aspects qu'il faut approfondir. Nous avons comme première interprétation du Coran, premier exemple de mise en pratique, le prophète lui-même, sa sunna, qui est l'interprétation première qui doit nous inspirer. Il y a aussi les anciens, les compagnons du prophète et tous les ulama, les savants qui ont suivi, qui n'ont pas fermé l'interprétation. Leur apprentissage, leur expérience, elle est nécessaire, mais nous avons assumé aussi nos responsabilités. Chaque génération doit tirer les leçons, se laisser s'inspirer par ce qui a été fait, mais en même temps adapter, parce que la pratique humaine, le travail humain est perfectible. Ce qui est parfait, c'est le Coran lui-même, mais le musulman n'est pas parfait. Il lui faut faire des efforts constants pour se corriger, comprendre, mieux comprendre. Et c'est le Coran lui-même qui l'exige, c'est-à-dire il nous demande de méditer, de réfléchir, de le recevoir de manière intelligente. Il ne vient pas remettre en cause la raison humaine ou l'intelligence humaine. Il vient au contraire nous responsabiliser, activer. Alors certains, parfois, parlent de réformer l'islam. Il ne s'agit pas de réformer l'islam, il s'agit de réformer peut-être les musulmans. Mais il s'agit...
Pourquoi il n'y a rien à réformer ?
Il y a à arranger, à adapter, à approfondir de manière à tout sa compréhension. Nous avons un livre dont le principe est celui d'un acte surnaturel, miraculeux, une révélation. Donc c'est un livre qui a un statut singulier. Et c'est le seul, c'est un peu le livre des livres. Et c'est le seul livre qui n'a pas d'apocryphe, qui n'a pas d'autres livres qui seraient différents sur certains. Non, c'est un livre unique, au statut unique, et dont nous devons être fiers de ce privilège impeccable et extraordinaire, mais en même temps, c'est un livre ouvert. Ce n'est pas un livre fermé. Il ouvre à la réflexion, il ouvre au regard intérieur, il s'adresse au cœur et à la raison, il s'adresse à l'âme et au vivant. Il dit dans un de ses versets qu'il a été proposé aux montagnes, à la nature et à la foi. Et ils ont refusé. C'est l'homme un peu qui n'est pas conscient du risque de ce libre arbitre qu'il a accepté. Alors c'est une grande responsabilité d'avoir affaire à un livre qui est à la fois sacré, révélé, surnaturel, mais qui n'est pas fermé, qui est ouvert. C'est sa notion d'ouvert. D'où que la première sourate, Al-Fatiha, ça signifie l'ouverture. Et qu'en même temps, le dernier mot du Coran et sa dernière sourate, c'est Nas, il s'adresse à l'humanité tout entière pour lui donner à penser, pour la responsabiliser. Donc, nous avons besoin d'avoir un regard qui soit à la fois profond et objectif.
Mais Mustapha Chérif, chaque génération peut avoir sa propre traduction des mots du Coran.
Elle doit avoir sa propre interprétation et traduction, mais elle ne peut pas faire l'économie de ce qui a été fait avant, quelles que soient les imperfections ou les insuffisances de chaque génération.
Certains problèmes ne se posaient pas avant. C'est ça la complexité.
Justement, c'est d'où l'intérêt de l'interprétation et de l'ijtihad qui est tijdid, interprétation qui est renouveau. Il y a deux aspects très importants qu'il nous faut prendre en considération. Il y a les constantes, thawabit, ce qui est permanent, et il y a des éléments évolutifs en fonction du contexte. Nous devons apprendre à les articuler, à les conjuguer, à les marier. Il y a des données permanentes. Ces données permanentes doivent être bien comprises, mais même ces données permanentes, chacun les vit à sa manière. Alors, nous ne pouvons pas aborder le texte de n'importe quelle manière. C'est un texte sacré, c'est la parole divine. Vous savez, un certain nombre de grands savants du début des compagnons du prophète ou juste après avec l'imam Malik, lorsqu'on leur demandait un avis sur l'interprétation, ils commençaient par dire « je ne sais pas », par peur de la responsabilité. C'est sacré, c'est la parole du divin et de Dieu. Donc, il est requis beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse. Parce que celui qui ose faire une interprétation qui ne correspond pas, a une responsabilité. Le prophète disait, lorsque tu fais un effort, si tu réussis, tu as double récompense, si tu échoues, tu as une seule récompense. Il faut faire l'effort d'être à l'écoute. C'est une voix qui nous parle. Et une voix de l'absolu, une voix de l'infini, ce n'est pas une voix humaine, ni une œuvre humaine, contrairement à tout un certain nombre d'états d'esprit modernistes qui s'imaginent que tout est pareil. Non, tout n'est pas pareil. Il y a un texte sacré, révélé, qui nous parle pour apprendre à vivre, assumer nos responsabilités, pour assumer notre libre arbitre qui est respecté. Mais en même temps, il y a cette parole qui nous parle comment apprendre à vivre, comment. D'abord, comment nous connaître lui-même? Le prophète nous dit « connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur ». Donc, c'est pour nous apprendre qui nous sommes. Il y a les questions fondamentales. Qu'est-ce que l'être humain? Ce n'est pas simplement un vivant. Et encore, il dépasse. Il y a des penseurs qui disent que le dépasse infiniment l'homme, parce qu'on est, et c'est du souffle divin que nous avons été créés selon la théorie de la foi et de la croyance. Donc, ce privilège, Dieu a honoré l'être humain. C'est le Coran qui le dit. Donc il nous faut être à la hauteur de cet honneur. Mmh. Il nous faut honorer la vie et être à la hauteur de ce qui nous est donné. Le problème, c'est lorsqu'il y a des interprétations qui sont rigoristes, ou qui sont fermées, c'est un contresens, c'est des lectures arbitraires.
Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises interprétations ?
Sans l'ombre d'un doute. Il y a des lectures qui sont légitimes ou qui font dans le consensus, qui correspondent à l'intérêt général, qui tient compte de la sunna, qui tient compte des compagnons du prophète et de l'ulama, et qui tient compte du contexte dans lequel on est. Et elles sont bien sûr toujours perfectibles, mais elles sont conformes à ce qu'on appelle la lettre et l'esprit. Et puis d'autres qui, par ignorance, ou par précipitation, parce qu'on ne peut pas se précipiter, font des lectures arbitraires et non conformes. C'est une évidence de la condition humaine.
Imam Abdelali, oui.
Oui, je voulais poser une question au professeur, puisqu'on parle de réflexion, d'efforts de réflexion sur une compréhension nouvelle du texte pour qu'elle puisse, être adaptée aux réalités dans lesquelles nous vivons. On dit que, justement, le moufti qui émet un avis religieux et qui, bien entendu, fait ce travail méthodologique dans lequel il va, dans son esprit, faire tout un travail dans lequel il va chercher dans les textes d'abord le texte approprié, et ensuite il va utiliser les aliyats, ce qu'on appelle les instruments, les outils nécessaires à réaliser son interprétation et bien entendu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'istimbat, sortir ce statut normatif qu'il va transmettre à la communauté qui l'entoure, hein, qui vivent eux dans ce contexte dans lequel il est. Mais moi, vous avez parlé tout à l'heure là, à l'instant, man ijtahada fa asab falahu ajran. Vous avez dit, celui qui réfléchit, qui fait cet effort de réflexion et qui a eu juste, eh bien, aura deux récompenses. Et que par contre, s'il commet une erreur, il aura quand même une récompense, parce qu'il aura au moins fait l'effort de réfléchir et essayer de trouver. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement ces conditions de l'ijtihad ? Parce que si on ouvre cette porte de Pandore qui donne la possibilité à tout un chacun, sans avoir les outils, sans avoir les instruments de réflexion, qui exigeait, tels que la maîtrise de la langue arabe, al-balara, l'historique du Coran, asbab al-nuzul, usul, qawaid al-tafsir, il y a tout un ensemble d'outils méthodologiques qui sont indispensables à l'interprétation du Coran, car sans elles, on aboutit à une interprétation erronée et on rentre dans le shaitan. Le prophète, vous avez parlé aussi d'humilité que les savants avaient et la crainte qu'ils avaient de donner des avis comme ça à tort et à travers. Ils étaient très, très prudents et c'est en conformité avec le hadith authentique. Le prophète dit « Ajra'ukum ala al-fatwa, ajra'ukum ala al-nar ». Les plus audacieux à émettre des avis, les plus courageux à émettre des avis, ce sont ceux qui ont le moins peur de l'enfer. Et est-ce qu'il n'y a pas la danger en ouvrant cette porte de Pandore à n'importe qui d'émettre des avis tout et n'importe quoi sans avoir les outils nécessaires comme moi je le fais bien entendu.
Alors on va laisser le professeur Mustapha Chérif répondre.
Il est clair qu'il y a des conditions pour interpréter. N'importe qui ne peut pas interpréter. Il faut être savant, reconnu par ses pairs, avec un certain consensus qui correspond à la Oumma. Il faut être à l'écoute du peuple et de la masse, de la communauté. Les conditions, elles sont connues, elles sont strictes, elles sont claires. Il faut connaître la langue arabe de manière parfaite.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter à partir d'une traduction ?
Ben non, bien sûr que non, parce que c'est déjà en soi une interprétation.
Mais on peut le recevoir. Il ne faut pas qu'on confonde. Il y a deux types de rapports. Le musulman a un rapport direct à Dieu. C'est un avantage, c'est un privilège. Pour lui-même, il écoute, il comprend. Pour lui-même, il a le droit de recevoir ce texte librement, sans passer par un certain nombre d'intermédiaires, sans passer par je ne sais quelle structure cléricale ou autre. C'est la chance. Mais en même temps, nul ne peut interpréter pour la Ummah, pour l'intérêt général, s'il n'est pas habilité, s'il n'est pas reconnu par ses pairs, s'il ne remplit pas toutes les conditions de l'interprétation. Donc il faut bien reconnaître. Et en plus, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect du fiqh, qui est seulement un des aspects, l'aspect jurisprudence, Donc, de fait. Et puis, il y a le fait
que... Expliquez à tout le monde ce que c'est, parce que tout le monde...
C'est la jurisprudence. C'est sur le plan du droit, par exemple, sur l'héritage, comment c'est juridique, c'est un aspect juridique avec un calcul de type mathématique très, très précis. Il y a des faits, oui, sur le divorce, sur un certain nombre de relations sociales, de relations humaines, que ce soit le mariage, l'héritage, etc. Tout ça, c'est une tradition qu'il faut respecter avec des aspects clairs, avec quelques aspects possibles d'adapter, mais en respectant ce qu'on appelle la logique permanente. Et puis, il y a le fiqh, c'est-à-dire la réflexion sur le sens de la vie et de la mort, sur comment apprendre à vivre. Ça, l'interprétation, elle est toujours bénéfique. Donc, il y a deux types. Il y a sur le fiqh, sur le jurisprudence, sur le droit, et il y a sur le fiqh, sur la pensée, sur la civilisation, sur la culture, sur le projet de société. Tout cela est important. Alors certains disent, et justement il faut refuser ce type de préjugé, certains disent que le Coran vient parce qu'il est perçu comme une doctrine qui répond à toutes les questions, comme s'il vient ligoter l'être humain et lui imposer un schéma. C'est complètement faux. Et c'est et évidemment... Il laisse la possibilité du libre arbitre pour apprendre à vivre, pour le comportement, pour soulouk, pour l'akhlaq, pour l'adab, donc pour l'éducation, pour le comportement. C'est important de. Alors, il ne s'agit pas simplement. Moi, je suis toujours un peu sceptique quand on dit interprétation nouvelle. Moi, je préfère quelque chose de dire interprétation de toujours, qui est parfois vue et parfois perdue de vue. Il y a une ligne dominante et générale de l'islam. Il n'y a pas d'interprétation nouvelle ni d'interprétation passéiste fermée. Il peut y avoir des interprétations passées. Mais l'islam a une ligne de toujours, une ligne valable en tout temps et en tout lieu, qu'on peut perdre, nous, êtres humains, et de vue, pour des circonstances, et qu'il faut retrouver, non pas en termes de passéisme ou retour au passé, mais en termes de rendre toujours d'actualité vivante sa compréhension de toujours.
C'est l'islam au présent, autour de la sortie du nouveau livre du professeur Mustapha Chérif qui s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau ». Les éditions, ce sont les éditions Unicité. On revient dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on vient d'entendre une publicité pour The Voice, mais là on a des voices importantes aujourd'hui sur ce plateau. À côté de nous, Imam Abdelali Mahmoud, nous avons le professeur Mustapha Chérif et puis Youssef Hachmaoui qui nous a rejoint. L'équipe est vraiment au complet aujourd'hui. Tout ça à l'occasion de la publication du nouveau livre de Mustapha Chérif qui s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau » aux éditions Unicité. Youssef Hachmaoui, vous avez une question?
Oui, tout à fait. Professeur Mustapha Chérif, c'est un honneur de vous écouter et de participer à cette émission à vos côtés. J'avais une question. Lorsque vous parlez dans votre ouvrage, vous parlez que il y a trop de préjugés, il y a trop de méconnaissances. Vous vous adressez à qui? Vous pensez à qui lorsque vous dites ça?
Question pertinente, je vous remercie, cher Youssef. Je m'adresse à tout le monde, justement. L'enjeu, c'est de s'adresser à tous, à commencer par les musulmans eux-mêmes, qui parfois ne sont pas à la hauteur, ne sont pas assez dignes de ce trésor extraordinaire qu'ils ont entre les mains, qui s'appelle le Coran. Donc il y a une méconnaissance, il y a une ignorance, il y a des préjugés d'abord au sein de la... L'émir Abdelkader disait parfois le musulman est une manifestation contre sa propre religion, parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce grand modèle que nous avons de la voix Mohammed Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme universel qui est venu pour nous apprendre à vivre. Il est juste venu pour éduquer, dit tout même l'akhlaq. Il est venu parachever les caractères et le comportement. Parce que la religion, c'est un comportement, c'est une pratique. C'est pas simplement une foi intérieure coupée du monde. Elle est venue pour justement donner du souffle au monde, pour faire traverser à chaque être ce sentiment qu'il existe pour une finalité, pour un but. Ce n'est ni un jeu de vivre, ni une absurdité. C'est du sens. Alors, si on ne comprend pas le sens de la vie, c'est des préjugés. Si on ne pratique pas comme il le faut, c'est des préjugés, c'est des ignorances. La cause des problèmes, c'est d'abord l'ignorance. Il y a aussi de l'hostilité, il y a aussi de mauvaises intentions d'un certain nombre de personnes qui ont de la religiophobie
ou de la, l'islamophobie, ou tout simplement de la démocratiephobie. Donc, nous avons besoin de rétablir les choses dans leur mesure. La mesure, c'est d'abord de prendre la parole, de la grâce ou des bienfaits de ton Seigneur, raconte. Nous avons une responsabilité pour témoigner, pour raconter. Sans jamais, Dieu lui-même dit au prophète, tu n'es pas chargé de les régir. Tu es pour avertir, annoncer, communiquer. Eh bien, nous devons être à la hauteur. Nous devons annoncer, communiquer, écouter, dialoguer. C'est important. C'est le mot « hiwar », il existe dans le Coran, notamment dans Sourate Al-Kahf. Donc, nous avons besoin de dialoguer. Nous avons ce n'est pas un acte de faiblesse que de dialoguer, que d'écouter, que d'échanger. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours entre les êtres humains, elle n'est pas toujours chez A ou chez B, elle est dans l'interaction entre A et B. Elle est dans de la discussion jaillit la lumière. Donc j'ai besoin de l'autre, c'est pas par charité ou par générosité ou gentillesse que je veux lui raconter ce que je pense ou ce que je crois ou ce que et j'espère. Mais parce que nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre isolé. On ne peut pas vivre coupé du monde. Chaque être est composé. Personne n'est monolithique. On est à la fois européen, méditerranéen, africain, arabe, berbère, musulman. On est composé, mais en même temps, il y a une colonne vertébrale. Chacun considère que tel aspect, que tel pilier est le pilier de sa vie. Telle dimension est le pilier de sa vie. Très bien, mais il ne faut pas exclure les autres dimensions et de la vie. Certains mettent beaucoup d'action sur la liberté, d'autres mettent d'action sur l'éthique et le sens. Eh bien, il n'y a pas de liberté sans loi, il n'y a pas de raison sans principe et de sagesse. Il nous faut articuler. D'où que notre modèle est Ummat al-Wasat, c'est-à-dire la religion du juste milieu, qui n'est pas là simplement pour faire des choix de mesure ou de modération, elle est là pour conjuguer et articuler des dimensions essentielles et de la vie. Nous voulons tout à la fois. Nous avons le droit en tant qu'être humain de vouloir être responsable de sa vie, mais en même temps d'avoir une morale, une éthique. La liberté, elle est le fondement de l'existence. Mais sans horizon, sans repère, sans valeur qui donne un sens et une humanité, nous irons vers d'autres dérives que sont la déshumanisation ou d'autres dimensions qui ne correspondent pas. Et cette crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui exige la multiplicité des avis. Ce n'est pas simplement aller diluer dans la diversité et la pluralité, parce que l'unité est essentielle, l'unité nationale, de la communauté nationale dans un pays, mais aussi l'unité humaine. Mais les sous-ensembles et des communautés spécifiques ne sont pas en contradiction avec le « nous » global, qui soit celui de l'humanité ou que soit celui du « nous » et national. C'est la priorité. Ce qui est le plus fort, c'est ce qui lie, ce qui assemble, ce qui rassemble. Le prophète, lorsqu'il a créé à Médine un État, c'était un État de droit pour tout le monde, pas simplement pour les musulmans. Mouhadirine, Ansar, Yahoud, Nasara, etc. Toutes sortes de composantes. Donc, pour les émigrés, les autochtones, les juifs, les chrétiens et d'autres. Il a créé une règle, il a créé une forme de constitution où c'est prioritaire. C'est prioritaire dans les relations humaines, un peu comme les lois civiles profanes de la République. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et chacun a sa foi, chacun a sa croyance. Et personne n'a le droit d'empêcher de vivre à chacun de nous, y compris dans l'espace public, et c'est que sa foi. Et c'est cela qui est essentiel. L'être humain n'a pas à être neutre. Il a à respecter l'ordre public. Il a à respecter le lien commun. C'est la loi de la République. Elle est prioritaire. Mais en même temps, sans ostentation, sans prétention et sans provocation, il a le droit de vivre de manière humble et paisible sa foi.
Vous parlez de dialogue interreligieux. Vous êtes un expert en la matière puisque vous avez rencontré plusieurs papes, même pas le pape seulement ici actuellement qui est actuellement au Vatican, mais même ceux qui l'ont précédé, de Jean-Paul II, par le pape Benoît, etc. Vous êtes un homme de dialogue, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'abord de commencer par ce dialogue intra-religieux, c'est-à-dire interne à la communauté musulmane, afin de convaincre nos co-religionnaires que voilà, il est nécessaire de s'imprégner d'altérité, de tolérance, d'accepter aussi que d'autres personnes puissent penser autrement, et cela, bien entendu, en abordant, en utilisant des arguments coraniques, prophétiques, comme par exemple le fait que Dieu, s'il avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il veut vous éprouver avec ce qu'il vous a apporté. Donc c'est bien une volonté divine qu'il n'y ait pas qu'une seule religion, qu'une seule communauté dans, sur cette planète, mais plein, mais c'est une épreuve pour nous tester, pour voir est-ce qu'on est capable malgré tout de s'entendre malgré les divergences. Ça, c'est la première. Et la dernière question, bon, mais après, elle va me revenir plus tard, parce que là, je l'ai perdu de fil.
Bon, déjà, cette question-là amène une belle réponse, ouais. Imam Abdelali.
Moi, je voulais savoir.
Professeur Mustapha Chérif.
Son expérience sur le dialogue intra-religieux. Oui.
Tout se tient. On ne peut pas laisser une partie s'occuper d'une autre comme s'il y avait tout est prioritaire aujourd'hui, parce que tous les problèmes se posent en même temps. Il y a nécessité de dialoguer à l'intérieur de notre communauté avec les différents courants, pour pouvoir arriver à un consensus qui nous ramène au juste milieu, puisque c'est Dieu lui-même qui nous dit dans sa sourate 143 de la Baqara,
qui est au milieu de la sourate,
de la 286 verset de la sourate Baqara, qui nous dit vous êtes, c'est la seule fois où il parle du milieu, vous êtes la communauté du juste milieu. Donc nous devons œuvrer et travailler pour nous éloigner des extrêmes, de l'roulou, de ta'assoub, de tout ce qui est rigorisme, exagération, mais il peut y avoir exagération de tous les côtés, pas seulement ceux qui sont dans la crispation, mais ceux aussi qui sont dans la dilution. Donc, il nous faut nous éloigner de toutes ces dimensions et arriver à la sagesse du juste milieu qui est le centre, qui est l'essentiel, qui est le cœur même de la vie et de la religion. Donc, il faut le dialogue intra-communautaire, il faut le dialogue interreligieux, il faut aussi le dialogue interconvictionnel avec ceux qui ne croient pas. Donc tous les types de croyances, que c'est ce que nous vivons tous les jours, la société humaine est traversée sur un, tout est utile et nécessaire afin de pouvoir construire un monde qui soit moins porté par la violence, qui soit porté par l'hostilité, par le racisme, par tout ce qui fait que l'humanité est entravée dans son épanouissement. Et nous pouvons apporter une part. Alors, il faut pratiquer l'autocritique, parce que notre parole est difficilement acceptée par un certain nombre de courants. Parce que pourquoi ? C'est parce que parfois, nous sommes en contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il faut corriger nos actes pour qu'ils soient conformes avec nos prétentions, avec nos principes et avec nos valeurs. Et c'est ça, cet écart. Il se trouve seulement, je le rappelle de temps en temps, qu'il ne faut pas confondre ces 15 ou 20 dernières années avec les 15 siècles. Parce que durant 15 siècles, l'écart entre la théorie et la pratique n'était pas très large. Il y a toujours une différence qu'on a. Il est très difficile d'arriver à la hauteur de ce qui est parfait, de ce qui est idéal, de ce qui est absolu, de ce qui vient nous apprendre à vivre et qui est sacré. Mais il y a un effort à faire pour être à la hauteur, un tant soit peu, pour réduire l'écart, pour ne pas être en contradiction avec ce que nous disons. Donc on est crédible si on commence par l'autocritique. Donc c'est important de corriger d'abord de l'intérieur, comme disait Germain Moon. Et donc nous avons à tout à fait être vigilants et être patients pour pouvoir réduire les ignorances, les préjugés, les excès. Nous sommes responsables de la mauvaise image qui est faite par-delà ceux qui, quel que soit X, quoi que tu leur dises, quoi que l'on leur dise, ils resteront enfermés dans leur aveuglement. Mais il dit, laisse-les, ils sauront. Dieu lui-même dit à Sayyid Moïse, salam alayh, c'est à Moïse, le prophète, va parler avec le symbole de la dictature et de la méchanceté, ce est le pharaon. Il lui dit, va lui parler, qawlan layinan, va lui dire des mots doux, des mots tendres, des mots gentils, des mots de sagesse, peut-être qu'il changera. Même avec celui qui symbolise l'oppression,
la tyrannie.
Et la tyrannie et l'injustice, il est demandé de parler. Donc, il y a aujourd'hui notre devoir de donner l'exemple.
nous pouvons contribuer. Il faut être fier, ce n'est pas une prétention mal placée. Il faut être fier qu'en tant que musulman, on peut contribuer à ce que l'humanité retrouve du sens, retrouve de la raison, retrouve une civilisation, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de civilisation. Elle est profonde, puisqu'on a dit que c'est tous les problèmes qui se posent en même temps. On peut contribuer. La Ikraha Feddin, pas de contrainte en religion. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit d'apprendre à vivre ensemble à partir de ce qui est commun, les lois civiles, profanes, ceux qui permettent donc la paix dans la société et qui permettent le progrès. Et chaque être humain a raison de vouloir être autonome. La modernité met l'accent sur l'autonomie de l'individu. Eh bien, nous aussi, rien que pour être musulman, il faut être autonome. Effacer toutes les idoles, là, il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, on efface toutes les idoles, tout ce qui vient entraver ma liberté et mon rapport au monde.
Et pas de clergé.
Et pas de clergé, mais respect des autorités savantes. Il y a une différence. Donc il faut accepter. Tout cela fait que nous devons, par notre exemple, par notre correction, par notre éducation, car c'est ça l'essentiel, non pas porter atteinte au vivre ensemble et à la dignité d'autrui, mais au contraire, honorer cette capacité à vivre ensemble. Nous sommes responsables. Il y a trop de groupes parmi nous, trop de personnes parmi nous qui sont dans le quiproquo, qui sont dans l'arbitraire, bien plus que le quiproquo, qui sont dans l'arbitraire, qui sont dans le contresens et qui s'attellent à des détails insignifiants ou des détails qui sont en contradiction avec les principes. Alors il faut sortir de la gestuelle, il faut sortir du mimétisme et assumer son intelligence. On est doté d'intelligence. Dieu nous a doté d'intelligence. L'émir Abdelkader, que j'aime citer encore, disait le plus grave des défauts, c'est de ne pas utiliser son intelligence.
L'émir Abdelkader et votre professeur Jacques Berck, que vous citez dans votre livre qui s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau » aux éditions Unicité. Vous pouvez rejoindre la conversation ce matin. Comment lire et interpréter le Coran? 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, avec l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Nous recevons aujourd'hui le cher Youssef Hachmaoui qui est là. Et nous avons la présence sur ce plateau du professeur Mustapha Chérif à l'occasion de la sortie de son nouveau livre qui s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau » aux éditions Unicité. Vous aviez une autre question, cher Youssef?
Oui, tout à fait. J'ai une question qui m'interpelle depuis une bonne vingtaine d'années. Et ça tombe bien, je peux la poser aujourd'hui à Mustapha Chérif, étant donné qu'il a bien connu Jacques Berck. Lorsque Jacques Berck a écrit son ouvrage « Le Coran », a traduit le corpus coranique, on lui a posé la question « Pourquoi vous ne l'avez pas préfacé ?» Et il a dit « Al-Qur'an la yuqaddamu lah » « Le Coran n'a pas besoin d'introduction. » J'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là.
C'est un acte ou une parole de respect du Coran. On ne préface pas le Coran, disait-il. Il n'a pas besoin d'être préfacé comme s'il fallait apporter sa caution. Lorsqu'on préface un livre d'un autre auteur, on vient apporter notre caution pour dire l'auteur est dans la voie ou le niveau ou la crédibilité ou le travail scientifique qui mérite. Donc préfacer le Coran, c'est se prétendre, ça serait prétendre que le Coran a besoin d'être donc boosté ou d'être reconnu ou d'avoir un label. Le Coran parle de lui-même. Il est une langue sacrée. Et il est le plus haut de tous. Il a un statut unique, celui de la révélation. Les autres textes sacrés sont aussi des révélations, mais la dimension humaine, eux-mêmes le disent. Et les évangiles aujourd'hui, c'est quatre versions d'évangiles, selon Matthieu, selon Saint Jean, selon Marc, etc. Donc, nous sommes devant un texte qui se veut. Personne ne l'oblige à y croire, mais qui se veut venu de l'au-delà, parole du divin, du créateur. Mais ce n'est pas une parole comme le ciel qui vient écraser la terre. Elle vient au contraire honorer la terre et la condition humaine. Elle est une réponse à quelque chose qui s'appelle le mithr, le pacte de prééternité. Dieu dit selon le Coran et selon la tradition abrahamique que lorsqu'il a créé Adam qui représente toute l'humanité
Et ce n'est pas simplement un mythe. Pour nous, ce n'est pas des mythes. Et la modernité a inventé le nom de mythe. C'est une réalité de l'histoire. Nous avons à le dire la tête haute. Là, il a réuni toute l'humanité du début à la fin. Il a dit, voilà, je vous crée en vous donnant la liberté, mais avec le devoir de m'adorer. Je n'ai, créé les djinns, les anges, etc., et l'être humain et l'humanité que pour m'adorer. Mais l'adoration a différentes dimensions. Un sourire est une adoration. Faire apprendre à l'autre à écrire et à parler et à compter, c'est une adoration. Faire du bien est une adoration. Il y a l'ibadat, le culte proprement dit, et puis il y a tout le reste de l'existence qui doit tendre vers une adoration sous tous ses sens, cachée et pas simplement apparente.
Ce verset-là a été interprété par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma comme étant liya'lamun. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هو فسرها ليعلمون او ليعرفون.
Et c'est juste, parce que vouloir se connaître, dit le prophète, c'est connaître son Seigneur. Adorer, c'est connaître. Le musulman croit au mystère parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est dans le dépassement. Dieu est à la fois présence et absence. S'il n'était que présence, on ne pourrait plus avoir de liberté. Il a une forme de retrait. Il est à la fois présent par ses signes dans tout l'univers. Il est présent dans ses signes en nous, puisque c'est son souffle qui est en nous. Et il est présent dans ses livres. L'ayat, ses signes, et elles sont là et nous avons à le connaître. Notre devoir est un devoir de connaissance. D'ailleurs, pour vivre ensemble aussi, ta'arruf, shart, ta'ayush. L'interconnaissance est la condition de la coexistence. Connaître. Alors, c'est pour ça que l'approfondissement est illimité. Et dans Surat al-Kahf, c'est là où il rappelle si tous les océans étaient de l'encre et toutes les branches des arbres étaient des plumes, les océans s'épuiseraient, mais pas la parole de Dieu. Donc nous avons, personne n'a le monopole de la parole divine.
Nous sommes, professeur Mustapha Chérif, à l'heure des réseaux sociaux, vous parliez des contresens aujourd'hui, et les contresens se propagent très très vite. Vous revenez dans votre livre sur une idée, par exemple, sur le jeûne du mois de Ramadan qui ne serait pas une obligation.
C'est un contresens infantile que de dire qu'un des piliers n'est pas obligatoire. C'est une mésinterprétation.
Alors ça vient d'où cette... Ça a beaucoup circulé hein, sur les réseaux sociaux.
C'est pour ça que dans mon livre, j'ai un sous-chapitre où je réponds à cette... à ce contresens.
Il y a deux choses qui circulaient, c'était la non-obligation et la date du Ramadan.
Oui.
Alors,
eh bien, c'est infantile. La dimension infantile fait qu'on ne voit pas l'axe essentiel. On bifurque sur des chemins sous prétexte de tolérance, sous prétexte d'humanisme. Eh bien, jeûner, c'est justement découvrir son humanité et se maîtriser. Ce n'est pas se laisser aller à la permissivité et au laxisme sous prétexte. D'ailleurs, des versets sont clairs. Si on ne peut pas jeûner, il faudra compenser. Si on ne peut pas jeûner, ce n'est pas si on ne veut pas jeûner. Si on ne peut pas jeûner, il y a des compensations, il y a des possibilités de reporter, de faire nourrir les pauvres, etc. S'il n'était pas obligatoire, il n'y aurait pas la nécessité de absolument le compenser, absolument faire nourrir des pauvres ou le refaire si on ne peut pas. Il y a des dérogations. Si ce n'était pas obligatoire, pourquoi est-ce qu'il y aurait des dérogations pour la femme enceinte, pour le voyageur pénible, pour d'autres cas? S'il y a dérogation, c'est parce qu'il y a obligation.
Il y a le verset qui dit « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْ »
Le lam, on l'appelle lam ou l'amr.
L'amr, comme l'iqra, comme lit, proclame, récite. Donc... C'est un peu.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّكَ فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا لِلْأَمْرِ.
Voilà, donc c'est un peu se vouloir être à la mode. La mode, ça n'a rien à voir avec la religion.
Cher Youssef.
Petite question encore, cher professeur.
Si ça fait 20 ans que vous vous la posez, c'est pas une petite question.
Non, hein. c'est récent. Ça parle du livre, effectivement. Beaucoup se sont essayés à vouloir développer, commenter le Coran, mais vraiment sur un volet purement scientifique. D'autres sur un volet purement. Littéraire, d'autres sur un volet purement spirituel. Vous avez tenté de joindre, de concilier les deux, le spirituel et le scientifique. Est-ce que ce n'est pas difficile, dangereux, possible même de concilier les deux.
Il ne s'agit pas de concordisme. Le concordisme était un courant du début du 19e siècle, du 19e siècle, pour essayer de montrer que toutes les inventions scientifiques sont dans le Coran. C'est pas du tout mon approche, et c'est pas la bonne approche. C'est l'esprit scientifique qui compte, c'est l'esprit logique. Rien dans le Coran ne s'oppose à l'esprit scientifique, à la méthode scientifique, à la logique scientifique, celle qui fait que il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de choses irrationnelles au sens où on l'entend aujourd'hui dans la modernité. Le mystère dépasse la raison, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais rien dans le Coran ne s'oppose à l'esprit scientifique. Il appelle à l'observation. Il appelle à tirer des leçons de la création.
Et il s'adresse aux raisons. Il y a Oulil al-Bab.
Et il s'adresse à ceux qui sont dotés de raisons, c'est-à-dire les êtres humains. Donc il nous faut être fiers que cet esprit scientifique existe dans le Coran. Maintenant, il y a autre chose. Il y a des vérités qu'on pourrait dire scientifiques, mathématiques même, dans le Coran. Par exemple, l'homme et la femme, ils sont cités autant de fois, 24 fois. Ce n'est pas un hasard. Le nombre de jours, il est cité par rapport aux chiffres qui existent. Le mois, il est cité 12 fois le mot mois, etc. Il y a une logique mathématique dans le Coran, même la position de chaque mot. Certains qui sont dans une position un peu pathétique, qui fait de la peine pour eux, ils s'imaginent qu'il faut par exemple changer l'ordre des sourates. Par exemple, on entend de temps en temps, pourquoi est-ce que les sourates du début de la révélation sont-elles à la fin et c'est du livre, alors que c'est une pédagogie sur laquelle le prophète tenait et qui est certainement d'inspiration divine et qui a un sens et pédagogique, qui a un sens. Parce que la force du Coran, c'est d'abord comment il touche le cœur et la raison. On cite souvent, et il faut le dire et le redire, comment Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est converti, comment le deuxième calife s'est converti, en passant devant la maison d'une de ses parentes qui était déjà convertie et qui récitait le Coran. À la lecture, à la récitation, à l'écoute du Coran, il a été transformé et son âme a été bouleversée. Donc le Coran est une voix qui nous parle. Le Coran, c'est les fils qui tissent notre âme et notre être. C'est une écoute qui nous met dans une dimension de métamorphose dans la vérité. Et c'est cela qu'il est difficile de faire quand on sait comprendre, mais il faut se mettre à l'écoute de l'autre. Parce qu'on nous dit toujours, le dialogue c'est important, mais et on dit il faut apprendre à écouter. Et c'est vrai qu'il faut d'abord à écouter. Iqra, cela veut dire lis, proclame, récite, mais aussi écoute ce qu'on te dit, étudie. Donc il nous faut étudier, écouter l'autre. Il nous faut comprendre pourquoi l'autre n'est pas sensible à ce qui nous bouleverse dans notre vie. Alors, il faut être sensible à ça pour pouvoir partager. Alors, ce partage, il est essentiel dans un esprit logique. S'il y a une chose qui considère que le Coran a sa force, c'est sa pédagogie.
Justement, quel message doivent aujourd'hui transmettre, que vous voulez que les imams, les cadres religieux relaient au commun des croyants, au commun des musulmans, et qui serait salvateur pour eux, pour vivre leur islamité en France et tout en étant sereinement citoyen en France.
Il y a trois éléments essentiels. Le premier, c'est ce que disait le prophète, réfléchis avant de faire un acte. Le prophète ne prenait jamais une décision ou ne fait jamais la moindre des choses sans réfléchir. La foi musulmane se veut une foi réfléchie. Réfléchis, n'imite pas aveuglement, ne laisse pas tes passions, comme dit le prophète, ne te mets jamais en colère, parce que la colère, la peur sont mauvaises et conseillères. Calme-toi, réfléchis et fais de telle manière à ce que tu comprennes, comme a dit le prophète, que le meilleur des êtres humains, c'est celui le plus utile à l'humanité. Ce n'est pas celui qui est dans l'égoïsme, mais celui qui est dans le bien commun. Chers frères, chères sœurs, devrait dire l'imam, prenez soin du bien commun, c'est là où vous serez à la hauteur et des enjeux.
Safa, Chérik, vous parliez de pédagogie. Ben voilà, c'est un livre pédagogique qui s'appelle « Lire le Coran, interprétation et renouveau » aux éditions Unicité. Merci d'avoir été avec nous. Imam Abdelali,
on n'est pas rassasié, Philippe. Enfin, franchement,
on reste sur notre faim.
T'es horrible, toi, t'es horrible. Je sais,
mais ça, c'est voilà.
On reviendra.
Cher Youssef, vous revenez quand vous voulez. On vous retrouve la semaine prochaine.
Et il y a le livre.
Imam Abdelali, voilà. C'est ça. Tout est dans le livre. Vous reverrez l'émission et vous la réentendrez en podcast sur beurrefm.net et sur l'ensemble des réseaux et plateformes de podcast.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.